Vous écoutez un podcast Top Music.
Top Music, premier sur la région. Top
Music. Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils.
Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes.
Un podcast à emporter partout.
C'était Moulin Rouge ou Lido.
Déjà en tête, j'avais ce rêve d'aller à Paris.
Les émotions qu'on vit sur scène, c'est une expérience, je ne peux pas trouver les mots. C'est quelque chose de magique.
D'être artiste, de pouvoir danser devant une milliard de personnes, c'est des émotions à couper les souffles.
Mesurer au moins 1m80, avoir une solide expertise en danse, savoir se maquiller, avoir de la rigueur et travailler en équipe, non, nous ne cherchons pas la nouvelle Miss France, mais un danseur de revue. C'est ce métier extrêmement physique et exigeant qu'exerce Alexandre Kobrine. Sacha, diminutif du prénom Alexandre, quitte son Ukraine natale pour danser dans le monde entier. À 27 ans, il arrive en Alsace, au Royal Palace de Kirchwiller, le Las Vegas local, l'un des trois plus grands music halls de France. 200 000 spectateurs chaque année, plus de 40 artistes venus du monde entier, une centaine de salariés et 6 spectacles par semaine. Sacha est aujourd'hui face au dilemme que connaissent de nombreux sportifs de haut niveau, la reconversion. Une nouvelle vie, un nouveau métier, pas si facile de lâcher la rampe. Sacha monte sur le podium et nous raconte les coulisses d'une vie d'artiste. Bonjour Sacha.
Bonjour Caroline.
Alors Sacha, racontez-nous déjà comment vous êtes devenu danseur. C'était un rêve d'enfant? Comment ça s'est passé?
Non, ce n'était pas vraiment un rêve d'enfant. Vous savez, j'ai grandi dans un village en Ukraine. La plupart des temps, on passait dehors. Il n'y avait pas vraiment beaucoup d'activités périscolaires. Mais à un moment donné, dans notre village, qui est assez grand, 4000 habitants quand même, il y avait une infrastructure qui était assez développée, des écoles, les crèches, il y avait aussi salles de fête qui étaient grandes, immenses. Et du coup, à un moment donné, il y avait un prof de danse qui est venu à l'école, qui a distribué les bulletins, les petites fiches.
Pour s'inscrire.
Faire la publicité. Je pense que j'ai ramené ces petites fiches.
Vous aviez quel âge alors là?
C'était vers, je crois que c'était 6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. Mon père a commencé à insister que vas-y. Et comme ça que j'ai commencé à danser.
Et alors après, vous avez continué?
Et après, ça a commencé à devenir vraiment grand. Il y avait de plus en plus d'enfants qui venaient. Et il y avait des costumes, il y avait des sorties, il y avait des concerts, il y avait des festivals. Une fois, je pense qu'on est allé même à Kiev avec un concert. Et c'était très intéressant. C'est une aventure. Et c'est ça qui est attirant pour un enfant de 7 ans, 8 ans,
de voir
voyager,
autre chose,
de voir autre chose. Voilà.
Vous aviez une musique, je sais pas, des danses particulières, quelque chose qui vous revient en tête comme ça?
Ah oui, bien sûr. Mon père, un jour, il a acheté le tourne-disque. Uh-huh. Et j'étais fou de joie. Quand il a commencé à mettre des vinyles, j'ai commencé à écouter la musique et c'était quelque chose d'incroyable. Et je me souviens très, très bien. Il y avait Monter Talking, il y avait Toto Cotugno, il y avait aussi différents artistes russes, ukrainiens. Mais ce qui, je pense, m'a plu le plus, c'est Stars en 45.
Alors, vous dansiez quoi? Vous dansiez le folklore ou c'était quoi comme danse?
Surtout les danses folkloriques ukrainiennes. Mais aussi, comme à l'époque, c'était toujours l'URSS. En gros, c'était les danses des pays de l'Union soviétique.
Alors, comment on fait pour passer de la danse en costume, la danse du pays, à être danseur de revue? Comment on saute le pas?
Je pense que à un moment donné, quand on commence à réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire après.
Donc vous faisiez des études pendant ce temps?
Pendant ce temps-là, oui, j'étais à l'école, j'avais des idées en tête vers la fin de l'école. Je voulais vraiment devenir un médecin.
Ah ouais?
Chirurgien. D'accord. J'ai passé des examens d'entrée, mais malheureusement, j'ai pas passé. Finalement, je ne sais pas quoi faire. Et une amie de village, elle était déjà au collège des arts et des artistes dans une ville qui était juste à côté de notre village. Et elle a dit, écoute, si tu sais pas quoi faire, essaye peut-être de passer des examens d'entrée dans le collège des arts. Tu danses très bien, t'es passionné, voilà. Et du coup, j'ai essayé et dans le premier coup, j'étais pris. Mm-hmm. C'est comme ça, j'ai continué mon chemin de danseur de cette filière-là. Puis j'ai resté 3 ans dans ce collège des arts et des artistes.
Et c'est quoi l'ambiance à ce moment-là quand vous êtes jeune en Ukraine? C'est quoi l'ambiance?
Vers l'âge de 16 ans, 14 ans. C'est un moment historique qu'on a vécu à cette époque-là. C'est la décomposition, la dissolution de l'URSS dans les années 90. C'est le début, juste le début des années 90. C'était on peut dire, entre guillemets, une catastrophe pour la plupart des foyers. Bon, mon père est décédé en 91. J'avais 2 ans. C'était difficile. Comme on dit, le monde s'est écoulé pour moi et j'avais plus de repères. Bon, à 12 ans, mon père, pour moi, c'était une personne, un idole pour moi. Mm-hmm. Du coup, quand il est parti, j'étais vraiment déboussolé. Et bon, j'étais 3e enfant dans la famille, le plus petit. Ma mère était aussi déboussolée comme toute la famille. Et elle a travaillé toute seule. Et je pense que j'étais laissé, on peut dire, à ma propre
initiative.
Et du coup, toutes les décisions que j'avais prises après mes 2 ans, c'était mes décisions personnelles.
Ouais. Et ce fait que la dissolution de l'URSS, ça change quoi dans votre quotidien?
Il n'y avait pas seulement la dissolution de l'URSS, mais aussi il y avait aussi la dissolution de Kolkhoz qui a commencé à apparaître. Mmh. Et ça commençait à devenir de pire en pire parce que les gens commençaient à partager les biens, pas forcément toujours...
Équitablement.
Bon, ma mère a continué toujours à travailler dans le kolkhoz.
Le kolkhoz, c'est quoi? C'est un genre de coopérative agricole?
C'est ça. Il y a des villageois qui travaillent dans le kolkhoz. C'est une grosse structure. Il y avait des vaches, des cochons, des moissonneuses-batteuses, des tracteurs, des camions.
Et chacun a son rôle.
Et chacun a son rôle, mais c'est énorme, c'est immense. Mmh. C'est immense comme structure.
Et du jour au lendemain, ça s'arrête?
Il n'y avait pas seulement ça, parce que, bon, comme j'ai dit déjà, c'était pas seulement moi qui étais déboussolé, mais la plupart du monde était déboussolé. Il y avait aussi une grosse rupture et déficit des aliments. On avait à cette époque-là les tickets de rationnement. On ne pouvait pas acheter, librement les produits qu'on voulait. Il y avait l'étiquette des renseignements qui était donnée pour un mois, un foyer. On pouvait acheter 1 kilo de sucre seulement, ou 1 kilo de pâte, 1 litre de l'huile pour un trimestre, du beurre de 100 grammes, quelque chose comme ça. C'était heureusement qu'on vivait dans le village. C'est ça aussi qui nous a sauvés. Après aussi, la banque centrale de l'URSS, il y avait une faillite. Il y avait des gens qui avaient des milliers. Je crois que ma famille aussi, il y avait quelques milliers de roubles qui étaient mis de côté. Mon père était assez pensif à ça, économe. Et tout est disparu. On ne pouvait plus revendiquer quoi que ce soit.
Et alors, vous quittez ça?
Je pars à un moment donné. Je crois qu'il y avait un déclic. Quand j'ai travaillé dans les champs ou quelque part, je me suis dit non, j'ai plus envie de faire ça. J'ai envie de partir, de voir autre chose, de voyager.
On peut partir?
Oui, on peut partir, bien sûr. On n'était pas des esclaves dans les familles, non. Après, j'ai pris un choix. Ma mère, quand j'étais toujours au collège des arts et des artistes, juste à côté de chez moi, après 3 ans, je me suis dit non, ça ne me suffit pas. j'ai envie d'aller plus loin. Et du coup, je décide, je crois que c'était en 86, de partir à Kiev, à la conquête de la capitale. Et ma mère me disait, non, mais fais pas ça, mais tu vas être déçu, tu vas pas passer des examens d'entrée, tu vas revenir dessus, ça va t'abattre, etc., etc. Je me suis dit, non, je sais quand même. C'est l'âge
de l'indépendance.
De l'indépendance aussi, des aventures, qu'on se dit non, toutes les portes vont s'ouvrir devant nous, etc. On n'hésite pas, on ne réfléchit pas, on fonce. Voilà. Et je suis parti et je n'ai pas passé l'examen d'entrée pour l'Université des Arts à Kiev. Il fallait avoir 13, moyen 13 minimum pour passer l'examen. J'ai eu 12, 12 et demi, quelque chose comme ça. Je me suis dit, bon, voilà, ça y est. De nouveau, j'ai raté, je vais revenir. Ma mère avait raison. Je me suis dit non, je ne vais pas retourner dans mon village. Je vais rester ici, je vais essayer de faire quelque chose. Je suis allé voir le recteur de l'université. J'ai attendu pendant 11 heures, je crois. Il y avait des gens qui passaient devant moi, des autres, les plus grands. J'avais 18 ans. J'avais en tête le texte que je vais lui dire, qu'est-ce que je vais lui dire, comment je vais tout annoncer, etc. etc. Bon, il m'a reçu, il m'a dit, bon, allez, entre. Bon, qu'est-ce que tu veux ? J'ai dit, écoutez, la situation est telle et telle, j'ai envie de faire les études chez vous, mais j'ai eu 12 seulement. Il a dit, bon, écoute, bon, lève-toi. Je me levais. Ah, t'es assez grand. Tu veux devenir qui ? Je dis, danseur. T'es dans la famille, combien d'enfants il y a dans la famille ? J'ai dit, 3. Je suis le plus petit. Et père, mère, je dis, père est décédé, ma mère, bon, il dit, viens avec moi. Et il est venu chez son secrétaire, il a dit, bon, écoutez, prenez ce garçon, inscrivez-le, prenez son nom, prénom. Il a dit, bon, tu peux retourner chez toi, reviens en septembre pour commencer des études.
Voilà. Génial, et c'était quand ça ?
C'était au mois de juin, juillet, l'examen d'entrée. Et je suis revenu en septembre, le 1er septembre, pour commencer mes études supérieures, mes 5 ans d'études supérieures. Hein. Du matin au soir.
À danser.
À danser.
Et là, il y a une musique qui vous rappelle tout ça ?
Michael Jackson, Black or White.
Donc, ça y est, vous y êtes. Ça y est, vous allez devenir danseur.
Oui.
Alors, comment ça se passe les journées ? Vous dansez toute la journée ?
Oui. Les journées super remplies. On commence deux fois à 8h30 à danser.
Et toutes les danses alors ou comment ?
Toutes les danses.
Toutes les danses.
Toutes les danses.
Classiques.
Classiques de salon, mais surtout l'accent sur la danse folklorique.
Ouais.
Mais il y avait beaucoup de classiques. Mais quand même, pour être polyvalent, on était obligé, pour devenir un prof de danse, on était obligé de passer aussi par les salons de danse.
Mais c'est-à-dire que votre objectif, c'était d'être prof de danse ?
Oui, mais surtout, c'était d'avoir le diplôme, parce que c'est quelque chose de prestigieux.
D'accord.
C'est un équivalent bac plus 5. Mm-hmm. Même si c'est vrai que le métier de professeur de danse, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est pas comme un médecin ou je ne sais pas, chez nous, ou un avocat ou un juriste. Mais voilà, après, maintenant, j'ai envie de danser.
Voilà, et donc vous dansiez.
Ouais, c'est ça.
Et alors, pour ça, il faut s'entretenir physiquement, il faut faire de la gymnastique. Enfin, je veux dire, à part la danse, il y a d'autres contraintes. Enfin, contraintes. Discipline.
Discipline. Non. Non, 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 mec, je veux dire, c'est intégré dedans.
Ouais, d'accord.
L'étirement.
C'est une bonne école, ça, alors, ukrainienne.
C'est une très bonne
Kiev,
école.
Ouais.
C'est
reconnue dans le monde entier.
Oui, on peut dire que, en général, les danseurs qui viennent d'Ukraine, de Biélorussie, de la Russie, de l'ex-Union soviétique, sont considérés comme les bons danseurs et danseuses.
D'accord. C'est reconnu mondialement.
C'est reconnu. Mais bien sûr, chez nous, c'est très strict. C'était très strict. Je ne sais pas comment maintenant, parce que ça fait déjà 16 ans quand même que j'habite ici en France. Mais je pense que c'est resté toujours. Il y a vraiment, il faut être ponctuel. Et des fois, j'étais en retard avec les copains. Après, il fallait s'échanger encore, etc. Et des fois, on toquait à 9h, 9h02, 2 minutes, 9h05 minutes. Et bon, on ne laissait pas entrer. Dehors, vous allez vous entraîner là-bas.
Dehors.
Dans le vestiaire. Dans le
D'accord.
vestiaire. Faites ce que vous voulez. Mais c'était, pour nous, c'était rater un cours de danse. Mm-hmm. C'était quelque chose. Parce que normalement, on commençait par la danse classique. Et après, bon, si on ratait ça, c'était quelque chose. C'était l'échauffement en même temps. C'était la préparation pour la journée. Et on s'est raté ça, c'est, on peut dire que la journée était ratée. Était ratée parce que la base était voilà, une bonne préparation, une bonne base pour la danse, c'est important.
Alors, un jour, vous partez de Kiev, d'Ukraine même.
Oui.
Alors, vous allez où ?
En 2003, je passe une audition. À l'époque, j'avais déjà une copine, ma future femme. Et du coup, on se disait, qu'est-ce qu'on va faire ? Écoute, peut-être on va aller ailleurs. On va quitter le pays parce que on était du même milieu artistique et il y avait des autres danseurs qui commençaient à partir travailler dans les croisières, les énormes bateaux et travailler aussi à l'étranger avec les bons contrats, avec des salaires hein, qui étaient énormément plus grands que chez nous en Ukraine.
On regarde les autres qui commencent à voyager, qui commencent à partir et ça donne envie de partir aussi.
De partir, ça donne une idée aussi de partir ailleurs. J'avais déjà 25 ans, 24 ans, 24 ans, oui. Je me disais, bon... Il faut commencer à gagner un petit peu plus pour le futur. Et là, je passe l'audition. Il y avait un agent qui est venu avec les metteurs en scène de Corée du Sud. Je ne sais pas vraiment, je n'ai jamais entendu de ces contrats-là, de ces endroits-là, de ces hôtels en Corée du Sud. Mais apparemment, tout le monde disait que c'est un bon contrat. Mm-hmm. Un contrat avec des bonnes conditions. Et du coup, j'étais pris. Ils ont pris seulement deux. C'était moi et un autre garçon que je connaissais depuis l'université.
Donc là, ils sont venus vous chercher à l'université ?
Non. En général, comment ça se passe, une audition chez nous ? Ils louent une salle de danse,
ouais.
Quelque part, assez grande pour pouvoir accueillir beaucoup de danseuses, beaucoup de danseurs. Il y a une chorégraphe qui vient avec eux. Et on nous montre certains passages, certaines chorégraphies ou certains morceaux. On doit apprendre. C'est intégré dans le métier, apprendre très vite.
Ah oui, la chorégraphie.
La chorégraphie en quelques passages. En deux, trois, quatre passages, avec la on fait aller avec la musique et après on est livré à nous-mêmes. On nous laisse danser par groupe, par 10, après par 5, après par 2. Là, par exemple, après ils trient,
ouais,
ils font un tri. Et
donc ils vous montrent une fois la chorégraphie et vous devez la reproduire tout de suite.
Oui.
Ah oui, c'est comme ça. Et ça, vous l'avez appris pendant les études.
Oui, quand on commence à danser à l'âge de 7 ans,
ouais.
Au début, ça paraît compliqué, mais après, ça devient tellement évident. Et la chorégraphie, c'est quelque chose, c'est un monde immense. C'est la mémoire visuelle,
ouais.
Et la mémoire du corps qui suit après. On photographie avec nos cerveaux, avec notre corps. Et on répète, et après, ça, je veux dire, ça devient tellement fluide qu'on ne même se rend pas compte comment ça se passe. C'est juste qu'il faut le faire et c'est tout. Idéalement, il faut que ça soit identique, comment le chorégraphe nous montre la chorégraphie ou différents morceaux de danse. Il faut que ce soit pareil. Idéalement.
Donc c'est comme ça qu'on passe une audition.
C'est comme ça qu'on passe
On regarde la chorégraphie et ensuite on la reproduit. C'est impressionnant quand même. Donc vous êtes choisi et vous partez en Corée du Sud.
Oui, je pars.
Là, c'est le grand voyage, là.
En Corée du Sud, oui. Je pars tout seul, sans ma copine, en espérant qu'un jour, on va se retrouver ensemble là-bas.
Ça, c'est un autre monde.
Oui, c'est un autre monde. Et 9 heures de voyage depuis Moscou.
9 heures de voyage, pas le même climat.
Pas le même climat, très humide.
Et pas la même ambiance.
Pas la même ambiance, mais c'est quelque chose que j'ai adoré.
Ouais.
J'ai adoré. Et quand on est venu là-bas, on était bien sûr tout d'abord choqués. Il y avait déjà les gens. Masqué partout.
C'est vrai? Ah oui?
Partout. Mais pas la moitié, mais un bon tiers des gens dans le métro, dans les transports. Ouais. Beaucoup de personnes âgées qui étaient masquées. On se disait, qu'est-ce qui se passe? Et après, on avait compris. Si quelqu'un est malade, si quelqu'un a un rhume.
Il met un masque.
Il met un masque.
Ouais.
Et c'est vraiment pour ne pas pour protéger les autres surtout.
Ouais, ouais, tout à fait.
Mais c'est une autre culture. C'est une autre dimension
radicalement
aussi.
Radicalement différent, j'imagine.
Différent.
Que ça doit être dingue.
La cuisine, on a adoré. Comme j'ai mangé déjà en étant enfant, adolescent, j'ai mangé un petit peu tout. C'est pas à cause de la pénurie, mais parce que j'aimais bien manger. Déjà, ma grand-mère, mes deux grand-mères, ma mère, les voisins, on était, je veux dire, souvent on était invités. C'est notre culture aussi d'être très ouvert et accueillir, recevoir. Et là, j'ai tout mangé, même des insectes, même des insectes en Corée du Sud. J'ai tout goûté. Et très épicé, j'ai adoré ça.
Et vous parlez anglais alors ?
Oui, on était obligé.
Ouais. Donc là, vous arrivez, c'est fantastique, c'est magique, il y a des lumières partout.
Oui, j'avais de la chance quand même.
Et vous faisiez quoi ? Vous étiez dans une revue ? C'était quoi en fait votre job ? Vous aviez été recruté ?
J'étais recruté pour un théâtre qui était intégré dans un énorme hôtel. C'était à Busan au sud du Corée du Sud. Et c'est un hôtel de 5 étoiles.
Et là, le faste, etc. Mais ça doit vous...
Mais vraiment...
Incroyable pour vous.
Ouais, c'est un changement radical du décor, on peut dire.
Oui.
En langage artistique. Et là, c'est vrai que c'est énorme. Juste la qualité de cet hôtel, les restaurants partout... Une énorme casino juste aussi en sous-sol à côté du théâtre qui accueillait plein de Japonais et des autres étrangers qui venaient dépenser ou jouer. Et c'était juste le théâtre aussi immense avec la possibilité technique de la scène incroyable, magique, et aussi les déshabilleuses qui nous aidaient à changer les costumes. Mais bon, non, je suis devenu un artiste, un vrai artiste, j'ai adoré ça.
Et vous étiez logé dans l'hôtel ou comment ?
Au début, pendant les répétitions, on était logé pendant un mois à l'hôtel. C'est aussi qui était...
du dortoir, vous êtes passé aux 5 étoiles.
Ah oui, c'est ça. Non, j'étais pas déjà à dortoir à Kiev. On louait un appartement avec ma copine ensemble.
D'accord.
Déjà. Mais c'est vrai que de passer d'un petit appartement d'une pièce à 5 étoiles, oui, ça change. Et oui, on était nourris ici dans les restaurants, mais après un mois de répétition, on était logés dans un autre dortoir pour les artistes, mais c'était complètement autre chose que les dortoirs pour des étudiants à Kiev.
Et donc, vous devez faire une revue, c'est un spectacle.
C'est un spectacle il y avait deux spectacles par jour. C'était en revue européen, comme du cabaret,
ouais, d'accord.
Comme un musical à la française.
Oui, d'accord, à la parisienne.
À la parisienne, c'est ça.
D'accord.
Les plumes...
comme le Moulin Rouge, Lido, etc.
Ou le Royal Palace à Kerviller. Ouais.
D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour que vous arriviez à Kerviller de la Corée du Sud?
Bon, tout d'abord, j'ai passé plus
donc
d'un an.
Vous êtes resté combien de temps là en Corée du Sud ?
Plus d'un an, j'ai passé au sud de la Corée du Sud. Après, on nous a proposé un autre contrat à Séoul, aussi un autre hôtel 5 étoiles, Sheraton. Et c'est encore
plus grand.
Encore plus grand. Et encore plus chic, et etc. Mais le système était le même. Et c'est pour ça que j'ai dit que j'ai eu de la chance, parce que souvent, quand les gens partaient en Corée du Sud, c'était les parcs d'attractions les parcs à thème. Bon, il fallait faire les parades du matin.
Ah oui, déguisé en Mickey.
Au soir, voilà, c'était autre chose. Mais on avait vraiment de la chance. Et j'ai oublié de vous dire que quand je suis venu en Corée du Sud, en 2003, je crois, il n'y avait même pas 2 mois qui sont écoulés. Il y avait une danseuse qui décidait de partir. Et à ce moment-là, j'ai proposé la candidature.
Vous avez pu faire venir votre fiancé.
C'est ça.
Ah, génial.
Et du coup, bon, j'avais la chance que déjà, premièrement, que c'était des bons endroits où j'ai travaillé, où on avait travaillé ensemble, et en plus, on était ensemble.
Ouais, c'est génial.
Oui.
Et elle dansait dans la même revue alors ?
Tout à fait.
Ouais, d'accord.
Tout à fait. Total, on a passé environ 3 ans en Corée du Sud.
Et quand vous avez un contrat comme ça, c'est pour combien de temps ?
Ça dépend. En général, c'est un an.
Un an.
Environ un an.
10 mois, un an, ça peut être un an et demi.
C'est difficile de se projeter, alors on ne se demande pas, mais qu'est-ce que je fais après ?
Des fois, c'est difficile, mais après, en même temps, c'est déjà bien, on connaît la date de la fin du contrat et on peut préparer à l'avance déjà...
La suite, quoi.
La suite, on commence à chercher, on commence à envoyer peut-être notre candidature ailleurs.
D'accord.
À l'époque, c'était les DVD. On faisait les DVD, on envoyait les DVD ailleurs aussi. C'était le cas. Toujours pour nous, envoyer ailleurs notre candidature en espérant qu'on va être accepté ou qu'on va être invité pour passer l'audition ailleurs.
C'est ça. Et donc, c'est ce qui se passe pour Kirviller.
Ce qui se passe avec Kirviller, mon épouse, elle était invitée de rester en Corée du Sud. Mmh. Et moi, je n'avais plus de place.
Ah.
Toutes les places étaient prises. Mais mon agent m'a dit, écoute, je ne vais pas te laisser, on va te trouver quelque chose quand même. Juste un mois avant la fin du contrat, en Corée du Sud, il m'a dit, Sacha, j'ai quelque chose pour toi. C'est en France, il y a un danseur qui s'est désisté au dernier moment. Tu ne veux pas y aller, mais tout seul, sans mille. Et je dis, oui, pareil, c'était, l'histoire s'est répétée. Pareil, c'était la même chose avec la Corée du Sud. Je suis parti tout seul, après elle est venue 2 mois plus tard. Je me suis dit, on va faire ça, après on verra. Là, je suis venu déjà avec mon contrat en main.
C'était sûr.
C'était sûr.
Pas une audition.
C'était pas une audition. J'ai envoyé mon CV et j'ai préparé la vidéo avec mes compétences. J'ai fait un morceau de danse. J'ai fait un morceau de danse sur cette vidéo-là. J'ai envoyé.
C'était quoi la musique ?
La musique, je crois que c'était la musique de Matrix.
Ah.
Et j'étais pris et je suis revenu en Ukraine, j'ai préparé le dossier, j'ai passé par l'ambassade de la France en Ukraine et j'ai eu mon visa de travailleur de long séjour et voilà, c'est comme ça que je suis venu.
Quand 2005, vous arrivez à la gare de Strasbourg.
À la gare de Strasbourg.
Après avoir vécu 3 ans en Corée du Sud.
Corée du Sud, oui.
Alors là, c'est encore un choc.
Et oui, tout à fait. J'ai vu déjà l'Europe. L'Europe, j'ai déjà voyagé avant de venir en France. J'ai déjà, en étant étudiant, on avait les petits concerts, les petits festivals à Luxembourg. On avait aussi un petit contrat dans moi en Autriche. On avait des festivals de danse folklorique en Slovénie. On a pu découvrir un petit peu. L'idée, c'était de partir faire les contrats dans les croisières.
D'accord.
Parce qu'on savait, c'est très très bien payé, on est nourri, on est logé, et en plus, avec les couples, c'est plus facile parce que le temps passe plus vite,
ouais,
et
c'est
pas si on n'est pas solitaire. Pour mettre de côté, c'était ça le but pour nous. Voilà. Déjà, à l'époque, on savait que la vie d'un danseur ou d'une danseuse, c'est très, quelque chose qui passe très vite, qui va se terminer un jour.
Jusqu'à quel âge, à peu près ?
Ça dépend des danses, mais en général. En général, c'est vers l'âge de 40 ans, on commence à... C'est la fin de carrière pour les danseurs.
Ouais.
C'est pas seulement les capacités physiques, c'est le mental qui change. Et je crois que c'est ça qui joue beaucoup. À un moment donné, on sait très bien déjà à l'avance, mais quand on est jeune...
On n'y pense pas.
On y pense, mais on se dit que c'est
dans longtemps.
C'est très longtemps. Mmh. Ouais, c'est dans très longtemps et voilà, on a encore beaucoup de temps devant nous. Mais... Vers 40 ans, on commence vraiment à comprendre. Ça y est.
Pour un homme et pour une femme, c'est pareil ?
Je pense que oui.
Quand vous arrivez à Strasbourg, vous avez quel âge ?
Et je suis venu, j'avais 26 ans et j'ai resté au Royal Palace jusqu'à 2020.
Là, aujourd'hui, vous avez quel âge ?
Aujourd'hui, j'ai 43 ans.
Ça sonne la fin.
Ça sent vraiment la fin. Mais de toute façon, j'ai déjà arrêté.
Ouais.
Je suis déjà parti 2 fois.
Mais alors, donc, juste pour revenir sur le Royal Palace, c'était connu comme cabaret ?
Moi, je connaissais pas.
Donc, vous partez comme... Vous ne savez même pas où vous allez ?
Non, non, du tout. Tout ce qui était très connu...
C'était Paris.
C'était Paris.
Bah oui.
C'était Moulin Rouge, c'était Lido.
Voilà.
Et après, les autres cabarets dans les autres pays, en Amérique, aux États-Unis ou en Angleterre. Mais là, c'était Moulin Rouge ou Lido. Et déjà en tête, j'avais cette idée, ce rêve de...
D'aller à Paris.
D'aller à Paris.
Ouais.
D'aller à Paris un jour, peut-être. Quand je suis venu ici, déjà, je me suis dit, bon, ça Moulin Rouge. De toute façon, j'ai passé l'audition. J'ai passé plusieurs auditions à Lido et à Moulin Rouge. Ouais. En étant déjà danseur ici à Kirviller.
D'accord.
Mais pour les danseurs, comme vous savez, c'est ici au Royal Palace, chaque année, j'avais un contrat d'un an. toujours des CDD. Chaque année, on était obligé de passer l'audition.
Repasser l'audition. D'accord.
Même en étant danseur ici depuis un an, depuis deux ans, depuis trois ans, quatre ans, peu importe, tout le monde doit passer l'audition. Et on ne sait pas, on va être pris ou pas. C'est ça le problème. J'aime pas être, du futur. J'aime bien préparer les choses à l'avance. Et du coup, chaque fois, je cherchais ailleurs déjà, même avant l'audition.
Pour être sûr au cas où.
Ouais. Non, je ne voulais pas partir. Je me sens bien ici. On est ensemble avec Mila, mon épouse, et tout va bien. Mais juste au cas où, si on n'est pas pris, on perd du temps.
Ouais.
On perd très vite les conditions physiques.
Eh oui, c'est ça. Il faut danser tout le temps.
Il faut danser tout le temps parce que en étant danseur permanent, c'est ça aussi l'avantage parce que on s'entraîne tous les jours.
Oui, c'est ça.
Presque tous les jours. Et c'est ça qui nous.
Ça vous tient.
Qui est en forme. Mm. Si on arrête pour un mois, deux mois, trois mois, il faut s'entraîner, il faut se motiver, il faut trouver la place, il faut trouver... En étant le danseur quelque part sous un contrat, on a toutes les conditions et...
Votre vie est organisée, quoi.
C'est ça.
C'est organisé.
Organisé et on s'entraîne...
Et comment vous avez fait pendant le Covid ? Ça a été fermé, le cabaret ?
Le cabaret a été fermé, je me souviens, comme c'était hier, hein, le 13 mars, c'était un vendredi, et, le patron... Monsieur Meyer nous a convoqués pour la réunion générale. On est tous assis sur les sièges des spectateurs. Il a dit, avec très grand regret, que sûrement il aura des restrictions et des mesures qui vont être prises par l'État. Et on attend, mais je pense qu'on va être fermé. C'était le 13. Vendredi, normalement, on a le spectacle le soir. Hein. Comme on connaît tous, le 17 mars 2020, il y avait le confinement général qui est tombé à la France. Et du coup, on est resté, tous les artistes, on est resté en chômage partiel jusqu'à la fin du contrat.
Et alors là, mais vous vous entraînez quand même? Vous dansez quand même? Comment vous faites pour tenir physiquement?
Au début, on était bien sûr inquiet du futur, hein, comment ça va se passer. Mais au début, on était quand même un petit peu.
C'était les petites vacances.
on s'est dit, bientôt, on va reprendre.
Oui, c'est ça. On pensait que ça allait durer 15 jours.
Oui, c'est un arrêt, mais c'est pas un arrêt qui est énorme, qui peut impacter sur les conditions physiques. Et on s'est dit, bon, ce sont les petites vacances. Mais après. Quelques semaines se sont passées, se sont écoulées, après deux mois, après trois mois, et on avait compris qu'on ne va pas revenir. Et du coup, c'est là que je prends décision, déjà la deuxième fois dans ma vie, d'arrêter la danse, d'arrêter d'être danseur et de tourner la page.
C'est vrai, à ce moment-là ?
C'est inévitable, il va falloir changer. Les danseurs, ils dansent 40, 41 ans, 42 ans. Et il ne peut pas danser jusqu'à 62, 64.
Ouais, c'est
impossible. C'est impossible.
Mais alors là, on devient prof de danse ?
Certains, ils deviennent prof de danse.
Ou chorégraphe ou...
Pour être un chorégraphe, c'est pas si facile que ça. Il faut avoir aussi le talent.
Là, cette période de confinement vous a permis de réfléchir à la suite ?
Ce période de confinement m'a permis de faire ce pas-là.
Ah oui.
De faire le choix. De toute façon, c'était
ça doit être dur, non, de se dire
c'était
parce
comme
que vous quittez la scène tous les soirs, vous êtes devant des milliers de spectateurs, les feux de la rampe, comme on dit. Oui. C'est dur de se passer de ça, non?
C'est très dur. C'est quelque chose. J'imaginais jamais à l'époque que ça va être tellement difficile. Est tellement compliqué de trouver quelque chose que je vais aimer autant que la danse.
Mais oui.
Et puis
quand vous arrivez au théâtre, quand vous vous préparez, quand vous montez sur scène, il y a une adrénaline, il y a quelque chose qui se passe tous les jours, non?
Oui. Même s'il y a plus d'adrénaline au début du spectacle, je veux dire au début de la saison.
Oui.
Parce que c'est un nouveau spectacle, un nouveau costume.
On danse combien de fois par jour ? Combien de spectacles par jour ?
En général, le Royal Palace, c'est un spectacle par jour, mais le week-end, samedi, il y a deux spectacles.
D'accord.
Le week-end, il y a deux spectacles par jour. Et oui, même au début de la saison, il y a plus d'adrénaline parce que tout est nouveau. Après, cette adrénaline se diminue, mais il est présent. Il est toujours présent. Et cette vibration, je ne sais pas, les émotions qu'on vit sur scène, c'est une expérience, je ne peux pas trouver les mots. C'est quelque chose de magique. C'est pas seulement la lumière, les paillettes, etc. Mais c'est d'être artiste, de pouvoir danser devant une millier de personnes. Ah, c'est des émotions à couper les souffles.
Et puis, j'imagine qu'entre danseurs, vous vous comprenez. C'est-à-dire que vous avez une vie un peu à part.
Oui.
Vous êtes ensemble en coulisses, vous partagez, c'est une grande famille, non?
Oui, bien sûr, c'est une grande famille. On passe beaucoup de temps ensemble. Il y a les répétitions, il y a les représentations, c'est une ambiance dont la loge, de toute façon, c'est pas moins intense et chaleureuse que sur scène. C'est...
Et alors, ça, il faut arrêter ça, il faut quitter ça.
Oui. Oui, il faut
parce que vous n'imaginez pas un métier qui vous remettrait sur scène.
Un métier qui me remettrait... Oui, j'ai réfléchi. Ouais, j'ai déjà réfléchi avant devenir un technicien de la scène ou de faire n'importe quoi, mais d'être toujours lié au spectacle. Je gardais ailleurs aussi... à la base, je ne suis pas vraiment technique, je veux dire. Oui, je bricole, j'aime bien bricoler, mais là, en plus, faire tout ça en français, oui, ça peut être possible.
Vous avez appris le français en arrivant en France?
En arrivant en France, oui. Je ne parlais pas en mon français. J'ai appris le français à un moment donné, après plusieurs années passées ici. On communiquait en anglais. On travaille toujours, c'était facile.
Oui, parce qu'il y a toutes les nationalités dans les danseurs.
C'était très facile. On n'était pas, il y avait pas vraiment besoin de parler français.
Ouais.
Mais à un moment donné, j'ai commencé à m'ennuyer parce qu'il y avait beaucoup de temps. Beaucoup de temps, les spectacles, c'était souvent après-midi. Et le soir, toutes les matinées étaient libres.
Ouais.
Avec mon épouse, on s'est dit, ouais, il faut bouger, il faut faire quelque chose. On va apprendre le français.
Vous parlez bien français.
Je ne sais pas. Écoutez, c'est à vous de juger. Et du coup, on était pendant 2 ans. Chaque matin, on se levait à 6h du matin. Et on commençait nos études. Après, on revenait. On faisait le spectacle. Et deuxième spectacle, ou juste un spectacle. Tout de suite, je commençais à faire devoirs en français. Je me préparais. Et c'était comme ça. 5 jours par semaine. 5 jours par semaine, oui.
Et quand vous êtes arrivé en Alsace, Kirchwiller, mais c'est... Un tout petit village.
Oui.
Ah, ça a dû vous surprendre par rapport à la Corée du Sud.
Je me souviens comme c'était hier. Et c'est le patron. J'étais étonné aussi. C'est le patron de Music Hall, Monsieur Meyer, qui me cherche à la gare de Strasbourg. Il parlait un petit peu anglais à l'époque. Moi, pas du tout français. Et voilà. Du coup, on n'a pas beaucoup communiqué. On quitte Strasbourg. Après, on prend l'autoroute. Et là, ok, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et on est toujours sur l'autoroute. Je me suis dit, où est-ce qu'on va? Et où est-ce qu'on va? C'est Strasbourg, c'est derrière.
Vous avez dit que c'était à Strasbourg.
Je pensais que c'était quelque part ou pas si loin que ça.
C'est combien de kilomètres alors, Kirchwiller?
40 kilomètres de Strasbourg.
40 kilomètres,
ouais,
d'accord.
Environ 40. Et là, après, on commence à prendre les petites routes de départementales.
Vous êtes revenu au village, quoi.
Il y a des champs, un petit village. Après, il y a un champ et un petit village. Un champ, un petit village. Et là, on rentre à Kirchwiller. Et là, il y a une route qui donne sur le Music Hall. Et là, je me suis...
Ouf.
OK. Ouais.
C'est grand.
Ça a l'air d'être bon. Et on voit le grand enseigne, Royal Palace, etc., etc. Une fois rentré là-dedans, j'ai compris que c'est assez grand.
C'est un vrai Music Hall.
C'est un vrai Music Hall, ouais. Et là, j'ai arrêté de m'inquiéter.
Pourquoi vous n'avez jamais été pris au Moulin Rouge ou au Lido?
Moulin Rouge, j'y suis passé une fois seulement l'audition. C'est une audition qui dure environ 2 heures déjà. C'est la première fois que j'ai passé l'audition de 2 heures. Il y avait beaucoup de choses qui ont demandé. Il y a la danse classique un petit peu, il y a le cabaret, il y a moderne, il y a les épreuves de souplesse. Et je n'étais pas pris. Mais au Lido, j'étais pris 2 fois.
Ah ouais?
Oui.
Et vous n'êtes pas allé?
Je ne suis pas allé.
Pourquoi?
Parce que déjà, si c'était le cas, ça aurait été troisième fois que je partirais tout seul, sans
votre épouse.
Sans votre épouse de nouveau, de la laisser ici. Et déjà, j'avais des amis qui travaillaient et au Moulin Rouge et au Lido, des mes amis de Biélorussie. Et ils disaient que, écoute, c'est très bien, on est bien payé, mais il faut louer un appartement.
C'est cher la vie à Paris.
Il faut se nourrir. Et...
Alors qu'à Kirvillers, vous êtes nourri, logé?
Oui.
Les conditions sont meilleures?
Les conditions sont meilleures. Déjà ça, la première chose qui m'a retenu, c'était le fait que je devais partir tout seul. Mm-hmm. Et voilà, on voulait rester ensemble. Ouais. Dit, non, écoute, même si c'était mon rêve de finir en beauté, je veux dire, quelque part dans un cabaret parisien, je dis non. Je vais laisser de côté, je vais rester, on va rester ici.
Donc, ce confinement vous oblige, entre guillemets, à vous poser la question de la suite. Et finalement, vous avez décidé quoi?
Et finalement, j'ai décidé de faire mes études et préparer mon CAP boulanger.
Boulanger?
Boulanger.
Alors, pourquoi boulanger?
Boulanger parce que à l'époque déjà, en 2012, je suis déjà quitté le Royal Palace. À l'époque, j'avais 33 ans.
Vous en aviez assez?
Déjà, à l'époque, je me posais des questions. Je me suis dit, plutôt je prépare le futur, mieux c'est. Et pour devenir quelqu'un dans un autre métier, il faut du temps. Il faut aussi la... On ne sait pas comment on va être accepté si c'est un travail dans une équipe ou pour obtenir une expérience, une certaine expérience dans un autre domaine. Souvent, il faut des années pour ça. Et du coup, déjà à l'époque, je suis parti et j'ai préparé mon CAP de cuisine. Je suis devenu cuisinier. Dans notre culture, la festivité, c'est quelque chose qui souvent c'était le seul
plaisir, quoi.
Plaisir,
ouais.
Ou le seul moyen de se divertir.
Ouais.
On travaillait beaucoup. Les gens travaillaient dur dans les champs, travaillaient dur pour gagner leur pain. C'était pas si évident. Et souvent c'était le seul plaisir à s'asseoir, préparer plein de nourritures différentes. C'était une tablée festive. C'était quelque chose abondante. Et il y avait plusieurs repas froids, des entrées froides, des repas chauds, plusieurs plats chauds.
C'est la convivialité,
desserts,
c'est être ensemble.
Et on passait, juste pour vous dire, pour vous donner un exemple, les mariages chez nous se fêtaient pendant trois jours. C'était samedi, dimanche et lundi.
À table.
Et par exemple, ma sœur, quand il y avait mariage de ma sœur, il y avait 300 convives. On mettait une grande tente à l'extérieur parce qu'on ne pouvait pas accueillir
à la maison.
À la maison. Et louer un restaurant, quelque chose. Maintenant, c'est très répandu en Ukraine. Personne ne met plus
de
tente, etc. Ou n'invite pas chez soi. La famille qui venait une semaine à l'avance, pour commencer à préparer déjà, faire mise en place et cuisiner.
Ah oui, c'était
Je me souviens comme c'était...
Un événement.
Ouais, pareil. Et quand j'étais gamin, quand j'étais enfant, à chaque fois, c'était et c'est pour ça que j'aimais bien manger. Des choses simples, mais bien préparées, hein, qui ont le goût. Et du coup, j'avais toujours soif de ces choses-là, Quand je revenais chez moi ou chez mes amis qui vivaient dans les villages, je retrouvais à chaque fois ce goût-là, des produits fraîchement cueillis, des légumes fraîchement cueillis ou des choses simples mais qui sont bons.
Mais vous vous dites alors je vais devenir cuisinier.
Je vais devenir cuisinier. J'ai réfléchi avant. J'ai fait déjà en étant danseur, j'ai préparé le bilan des compétences pour être sûr que j'ai fait le bon choix. Et là, du coup, voilà, je décide de passer, de faire CAP cuisine. Et j'en suis très, très content. On avait des très bons profs. Jérôme Malassagne, je le salue. Chef Sébastien aussi. On était très bien suivis. C'est deux profs qui sont passionnés. J'ai eu mon diplôme. J'ai bien fini. J'ai passé les stages dans les très belles maisons alsaciennes, étoilées.
Ah oui.
Dans les grandes maisons, oui, c'est une expérience inoubliable, inoubliable.
Ça se rapproche de la scène, non? Une grande cuisine.
Une grande cuisine? Oui.
Il y a aussi cette émulation, le stress, l'adrénaline.
L'adrénaline, mais c'est pas même adrénaline. peut-être j'étais pas habitué parce que j'ai pas passé assez de temps pour s'habituer à cette adrénaline là, mais je veux dire c'est un autre adrénaline, mais ça oui c'est
mais il y a l'équipe,
il y a l'équipe. Oui. Oui, oui, ça bouge beaucoup. On transpire aussi, comme sur scène.
Et alors, du coup, vous continuez pas la cuisine ?
La cuisine, je continue pas. On m'a proposé de rester dans un restaurant. Mon dernier lieu de stage, c'était Auxerre, à Marlenheim.
À Marlenheim, qui est un étoilé.
Une étoilé, oui. Et le patron, Michel Husser, il m'a convoqué pour un petit rendez-vous. Il m'a proposé de rester chez lui. Et malheureusement, j'étais obligé de refuser parce qu'on vient d'acheter, on venait d'acheter l'appartement à Strasbourg. Il fallait faire les travaux. On dormait sur un matelas gonflable. Et du coup, je me suis dit non, je peux pas laisser l'appartement comme ça parce que si je commence à travailler maintenant dans un restaurant, c'est les horaires, vous les connaissez quand même. On commence à 8h, souvent on finit à minuit. Je vais jamais finir les travaux ou préparer l'appartement pour vivre tranquillement là-dedans. Et du coup, j'ai dit, monsieur Husser, je vous remercie très bien pour la confiance, mais malheureusement, je peux pas. Une fois je vais finir les travaux, je reviendrai avec plaisir. Et mon épouse continuait toujours, quand j'étais en formation, c'est pas cuisine, mon épouse continuait toujours à travailler à Kirwiller.
D'accord.
Mais cette expérience dans cette très belle maison alsacienne, comme c'était à Langsmoor, 3 étoiles, à Berenthal, ou comme c'était à Limbach, Cheval Blanc, qui est maintenant 2 étoiles Michelin, chez Pascal Bastien, chaque fois c'était quelque chose, oui, C'est magique. Mmh. Les produits qu'ils utilisent, la présentation des plats, les goûts, c'est magique. Mais c'est un métier de ouf. C'est un métier de. Il faut avoir vraiment la passion, la rigueur. Mais c'est bon. Après les travaux, ça a pris plus de temps que c'était prévu.
Comme c'est normal, ça.
Moi, je ne savais pas. C'était la première fois qu'on avait acheté un appartement. Finalement, mon épouse est tombée enceinte. On a eu notre garçon aîné, Léon, en 2014. Un an passe avec lui et on décide de retourner à la danse. On est retournés tous les deux. On a passé de nouveau l'édition Royal Palace. C'est comme ça que j'ai passé de nouveau Royal Palace depuis 2015 jusqu'à 2020.
Donc, oubliez les rêves de cuisine.
Oublier les rêves, oui. Et j'ai. Ouais, c'est aussi pareil, je me suis rendu compte que. Le travail physique, ça ne m'interrogeait pas. Ça. Et d'être là aussi du matin au soir, non plus. Mais j'ai compris une chose, que mon idée, c'était... Je voulais pas être salarié en tant que cuisinier. Je voulais devenir un patron. Ah. D'avoir mon petit restaurant. En me mettant dans les conditions réelles du métier, j'ai compris que ça va être très, très compliqué. Et c'est pour ça que j'ai laissé tomber cette idée-là.
C'était bien d'avoir ce CAP de toute façon.
Oui, j'ai rencontré, comme je vous ai dit, j'ai rencontré des personnalités juste incroyables. Voilà, j'ai un très bon ami toujours depuis c'est Sébastien Romain.
Il est venu sur ce podium.
Oui, je sais, il est venu et on est resté très proche depuis. Et du coup, non, ça m'a vraiment, ça a élargi mon champ de vision. Mmh. Et ça m'a permis de, oui, vous avez bien dit, c'est quand même quelque chose qui est déjà acquis et ouais. les notions et les gestes, etc. Ça se perd, mais je pense que ça revient comme avec la danse.
On n'oublie jamais.
Ça revient très vite. Et puis, pourquoi Boulanger ? Et puis, parce que je me suis dit, je ne vais pas aller trop loin non plus de ce que j'ai déjà fait. Et j'ai la base déjà de cuisine, j'ai la base de tout ce qui concerne la l'hygiène, l'organisation, aussi la cadence, etc., etc. Je me suis dit, pourquoi pas ? Et en plus, j'avais un déclic. J'ai rencontré au passage un copain qui était musicien à l'époque, et il s'est reconverti en boulanger. Et il s'est avéré qu'il a fait exactement la même chose. Il a fait
Il a passé CP cuisine. Après, certains stages dans les restaurants, il a laissé tomber cette idée-là. Tout de suite, dans la foulée, il a fait, il a passé son CP boulanger et il a ouvert sa boulangerie. Ça marchait et il y avait des bons produits, du bon pain, des baguettes, etc. La viennoiserie. Je me suis dit. Si c'est possible, parce que pour moi, c'était quelque chose d'avoir une boulangerie, une propre boulangerie, c'était inimaginable. C'était, dans ma tête, c'était très compliqué. Et là, j'ai vu que, oui, c'est possible.
C'est possible.
C'est possible, faisable. J'ai pris cette idée-là.
Vous couchiez tard, maintenant, il va falloir se lever tôt.
Oui, c'est l'autre problème. Il faut s'organiser autrement. On a eu au passage aussi un deuxième fils, Michel, qui est à 9 mois maintenant. J'ai eu mon CAP boulanger. Et après, voilà, Michel, il avait 3 mois. Et je me suis dit, je prends une petite pause, un petit peu de recul. Je vais voir qu'est-ce que je vais faire maintenant. Comment s'approcher à ce projet. Par quoi commencer déjà? Business plan, on cherchait un expert comptable ou je ne sais pas même par quoi
même
commencer.
Même une boulangerie déjà pour commencer.
Même boulangerie pour commencer. J'ai déjà des idées dans la tête. Qu'est-ce que je veux? Quels produits je vais proposer aux clients? Où ça va être? En plus, il y avait une triste nouvelle qui s'est passée au mois d'avril et j'ai perdu ma maman. C'était compliqué de vivre tout ça. Quand je suis revenu après l'enterrement, j'ai passé ces deux derniers jours à côté d'elle. Je me suis dit non, il faut que tu finisses cette formation. Je pense que c'était une période de dépression quand même, surtout après le départ de la maman. Et maintenant, je remplace un danseur qui s'est blessé au Royal Palace. On m'a téléphoné et comme de sortir un petit peu de... Je ne sais pas. J'ai pas vu un spécialiste, mais je pense que c'était quand même petite dépression.
Revenir sur scène,
ça fait du bien. Ça donne des frissons et des chairs de poule.
Ça va être dur de quitter la scène. Hein.
Je sais, ça va être dur. Mentalement, on l'accepte, on sait un jour. Mais une fois ça nous arrive, c'est...
Ouais, c'est pas pareil. Hein.
C'est pas pareil, c'est brusque.
Il faudra avoir le projet de la boulangerie avant de quitter les...
Oui, c'est ça.
Parce que là, vous avez un contrat jusqu'à quand?
J'ai un contrat, c'est un contrat, il n'y a pas de date de la fin. C'est jusqu'au rétablissement complet d'un autre danseur.
D'accord. Mais on ne sait pas combien de temps ça peut prendre.
On ne sait pas combien de temps. À peu près, on connaît déjà le délai, combien ça peut prendre. Ouais, ça peut arriver mi-mars ou peut-être début avril.
C'est bientôt quand même.
C'est bientôt. Non, c'est bientôt.
Et donc à ce moment-là, ce sera fini?
Oui.
Vous ne ferez plus d'audition?
Je ne pense pas.
Et votre épouse, elle continue à danser?
Non, mon épouse, elle est arrêtée il y a déjà 3 bonnes années, je crois.
D'accord.
Et là, c'est reconvertie en professeure de danse, justement.
D'accord.
Oui, elle aime ça.
Elle aime danser.
Elle adore.
Et votre boulangerie, elle sera où?
Ma boulangerie sera, j'espère, à Strasbourg.
Vous n'avez jamais eu envie de retourner en Ukraine?
Vous savez, après avoir passé 16 ans en France, on s'est dit qu'il n'y a plus vraiment grand-chose qui me retient en Ukraine. Je suis allé là, de temps en temps là-bas, pour rendre visite, pour voir la famille. Et ma maman, elle est venue aussi ici chez moi. Oui, quand je reviens là-bas, ça m'a fait du bien, mais pas plus que ça. Mon épouse est là. Et une petite partie d'Ukraine, elle est ukrainienne. Mon épouse est là. Mes enfants sont nés ici. Il y a déjà quand même une grande partie, très grande partie de vie qui s'est déroulée ici. Au début, je ne voulais pas vraiment d'avoir un passeport français, obtenir une autre nationalité. C'est un grand pas. Et au début, je voulais juste être libre au niveau de mes mouvements, de mes déplacements. Et comme chaque année, on avait un visa d'un an, et chaque année, on était obligé de passer à la préfecture, de déposer un autre dossier pour une autre année. C'était un petit peu la galère. Mmh. À un moment donné, je me suis dit, non, je ne veux plus faire ça. Je veux être libre dans mes déplacements. Je demande le titre de séjour de 10 ans. Et on m'a refusé 2 fois. Et à un moment donné, quelqu'un m'a conseillé, je crois, une de mes amies à Paris, écoute, essaye de poser en parallèle un dossier pour la nationalité. pour la naturalisation. Je dis, c'est possible? Ah oui, c'est possible. C'est... Oui, oui, c'est... J'ai essayé et de nouveau, j'ai eu un refus pour la carte de 10 ans.
Mais oui, pour la naturalisation.
Pour la naturalisation. Après 11 mois, après avoir déposé le dossier, après 11 mois, j'ai eu mon...
Donc aujourd'hui, vous avez la double nationalité?
J'ai la double nationalité, oui.
Et vos enfants aussi?
Non, mes enfants sont déjà français. Mais je dis, à la maison, au moins, si tu parles russe, pour ne pas perdre les racines.
Bien sûr,
pour
bien
nous,
sûr.
C'est très important. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas la langue
bien
française.
Sûr.
Non, c'est, il ne faut pas oublier ses racines, je pense.
Alors, Sacha, ce podcast s'appelle Le Podium. Aujourd'hui, vous êtes en haut du podium. Qui est-ce que vous aimeriez faire monter avec vous sur cette scène?
Et bien sûr, en première place, c'est ma chérie, mon épouse, Mila, c'est ma meilleure amie, c'est ma meilleure conseillère, mon soutien, c'est mon tout. Et c'est une personne qui est très positive, très optimiste.
C'est votre moteur.
C'est moteur, ouais, c'est moteur, elle est juste incroyable, c'est elle. Après, bien sûr, mes parents, même s'ils ne sont plus là, même si je... pas beaucoup connu mon père. Hein. Ce sont vraiment des personnes qui m'ont donné tout, je veux dire, en étant les parents, des merveilleux parents. Des...
Ils vous ont donné le choix, surtout.
Le choix. Le choix. Et mon père me disait toujours, tant que tu peux, apprends. Apprends toujours. Lis beaucoup, apprends toujours. Même s'il n'y avait pas beaucoup de conversations avec lui, je ne me souviens pas trop, mais c'est lui qui m'a donné cette soif de découvrir le monde, de voir... autre chose que la vie dans un village. Et sans oublier Sébastien Romain, qui est devenu très bon ami. On discute beaucoup avec lui, on échange beaucoup. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Aussi, peut-être, si j'ai parlé de la boulangerie, peut-être mon dernier maître d'apprentissage, Valentin, qui essayait de voir mon progrès, de participer à mon apprentissage, à transmettre les choses, à apprendre vraiment les finesses et les petits secrets de ce métier, de ce beau métier.
Alors, on vous souhaite bonne chance, Alexandre.
Merci, Caroline.
Bonne chance et puis une autre vie s'ouvre à vous. Ça va être magnifique aussi, plein de découvertes.
Je suis sûr, ça va être une très belle vie. J'aimerais bien finir avec Aretha Franklin, Think.
De vie, succès, échecs, astuces et petits conseils.
Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes.
Un podcast à emporter partout.